Je suis prêt, Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale!
Gare à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveautés de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale!
Les entrevues!
Écoute locale!
La playlist!
Lundi, 14h! On sauve la musique!
À Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
La fête de la musique de Québec t'attend pour une fin de semaine complètement électrisante. Le 16, 17 et 18 juin, c'est sur la rue Saint-Jacques que ça se passe avec plus de 45 artistes de la relève qui vont faire vibrer le quartier au rythme de la fête. Lid, Worry, Kirpip, Julian, Purcaria, Les Lunatiques et plusieurs autres se rassemblent pour vous offrir 3 jours de découverte musicale. Amène tes amis, c'est gratis. La fête de la musique de Québec, le 16, 17, 18 juin sur la rue Saint-Jean. Tu veux pas manquer ça.
Moi, quand j'étais jeune, je voulais être plus vieux. Là, à cette heure, à mon âge, je me trouve dans le mitin de les deux. Les étés à vieux de l'art, à ma finir cru dans les bois. À cette heure, les semaines coulent dans les ions, comme de l'eau entre mes doigts. Peter va t'y comprendre ses points de vue. Elle a échappé ses désirs et sa raison, c'est amour. Oh, le temps coule puis s'en va comme de l'eau entre mes doigts. Abraham a cru qu'est adulte saurait ses temps de pression. Un travail comme un animal sur le chantier de construction. Avec mes deux mains, je peux me supporter de ça en suffisant. Oh, le temps coule puis s'en va, comme dans ma gorge, il coule la bière.
Vous écoutez L'Or des histoires.
Bien le bon matin, univers de Québec.
Salut tout le monde.
Et tous les autres, bien entendu, et les poussins à ma mère. Ma mère s'est acheté des nouveaux poussins, fait que j'ai salué les poussins à ma mère. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir les utiliser dans un de mes jingles. Donc voilà, oui, c'est l'heure des histoires, parce que moi, dans le fond, je vais me présenter.
Oui, on m'appelle Louis-David Gingras, et je me sens bien quand on m'appelle comme ça.
Parce qu'apparemment, c'est mon nom.
Quand même fameux comme jingle de présentation. Donc oui, moi, je m'appelle Louis-David Gingras. C'est moi qui va animer l'émission aujourd'hui. D'habitude, j'ai un co-animateur, mais ça donne qu'aujourd'hui, ben, je suis par... Parfait. Ben, écoute, sans plus tarder, c'est parce que là, je suis pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai un... invité du jour. Mais écoute, Jérémy.
Ouais.
Jérémy Thibault.
Oui.
Tu vois, regarde, tu vois, représentant, fier représentant de... Là, tu vois, je l'ai noté, je voulais être sûr, mais c'est de gloire et d'aventure.
Oui, c'est ça, mais en fait, je suis le propriétaire et fondateur de la compagnie.
C'est ça. Fait que là, ben, aujourd'hui, ben, notre sujet...
Le sujet du jour.
Je fais tout le temps un effort pour faire trouver un sujet du jour, mais là, je me suis dit, aujourd'hui, on pourrait parler de l'art de la création scénaristique. Mm-hmm. Et jeux de rôle, et de jeux de rôle. Parce que ça ressemble un peu à ça, dans le fond, ce que tu fais.
Oui. Globalement, moi, ce que je fais, c'est de la création scénaristique au point de vue du jeu de rôle. En fait, moi, initialement, je suis un réalisateur de films. J'ai fait quelques petits projets, dont un qui avait beaucoup tourné à l'international, qui s'appelle Salut Gadou, qu'on avait parlé à Chiz l'an dernier, justement. J'ai fait, c'est ça, tout mon parcours d'études, en fait, s'est fait en cinéma et communication. J'ai branch out à un moment donné pendant quelques années où ce que j'ai fait autre chose, mais j'ai majoritairement toujours étudié là-dedans, donc je suis quand même assez, disons, je me définirais pas comme un spécialiste ou un expert dans le sens où il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours la scénarisation, c'est toujours en évolution, en fait, là. Des choses qui fonctionnaient il y a 20 ans fonctionneront peut-être pas aujourd'hui, puis à l'inverse, des choses qui ont été faites il y a 20 ans qui ont peut-être pas marché aujourd'hui vont peut-être pogné au bout. Ouais. C'est le cas notamment de nombreux films qui avaient passé en festival. Puis moi, dans les dernières années, je me suis spécialisé donc dans la création de jeux de rôle, donc d'histoires pour les univers de jeux de rôle, style Donjons Dragons, qui est celui que les gens connaissent le plus. Puis j'avais commencé ça il y a à peu près 3 ans. Donc, j'avais commencé à faire ça dans des écoles. Au départ, c'était vraiment juste pour le fun, parce que moi, je suis un immense nerd. S'il y en a qui reconnaissent un peu ma voix, c'est pas la première fois que vous m'entendez à Chiz. J'avais eu une émission de radio où j'avais des chroniqueurs, puis animateurs qui s'appelaient des Kiwis et des Nerds.
Oh mon Dieu! Ah oui, je connais cette émission. Tu vois, j'ai checké votre palette tantôt pour voir si vous rivalisiez avec la mienne.
Non, notre palette était beaucoup moins garnie, mais on avait du très, très bon contenu, par contre. Mais on avait quand même des affaires cultes. Fait que nous, avec la compagnie, en fait, c'est assez récent qu'elle existe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la page Facebook commence tout juste à être garnie. C'est aussi la raison pour laquelle le site Internet est encore en construction en ce moment. Mais comme je disais, quand j'ai commencé ça, il y a 3 ans initialement, je pensais pas que j'allais m'embarquer dans une aventure aussi grande que ce que je fais en ce moment. J'avais fait ça vraiment pour le fun. J'avais fait ça au secondaire dans des entre-classes à l'école Perrault. Puis... j'avais vraiment beaucoup aimé. Puis à un moment donné, un petit peu avant la pandémie, je m'étais dit « Hey, j'aime ça, moi faire du jeu de rôle. » Puis si j'allais en donner à des jeunes qui, eux aussi, aimeraient ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une forte demande puis un fort besoin, en fait, pour ce genre d'activité-là. Parce que en parascolaire, beaucoup dans les écoles, c'est beaucoup des activités qui sont sportives, comme le basketball ou alors le soccer ou toutes sortes d'activités dans ce style-là. Puis... à l'occasion, tu vois des clubs d'échecs, mais il n'y a pas vraiment de parascolaire pour les gens qui sont un peu plus comme moi, en fait, qu'au secondaire, le sport, c'est important, je suis d'accord, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui les intéresse. Puis on sait que l'objectif du parascolaire, en fait, c'est de garder le jeune rattaché. Fait que j'ai commencé à proposer mes services dans d'autres places. Puis finalement, je me suis fait écrire par une des places que j'avais pas du tout contactée, qui m'avait dit « Hey, salut, j'ai entendu parler de toi, il paraît que c'est super le fun, est-ce que tu serais intéressé à venir en faire à notre école? » Fait que j'ai commencé à en faire. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, un, ben moi, j'adore ça. Là, c'est la meilleure activité que tu puisses faire, je pense, avec des jeunes. Là, c'est... Puis la deuxième chose, ben, moi, en fait, je suis un créatif à la base. Je suis un réalisateur de cinéma qui a comme décidé de se reconvertir parce qu'on s'entend que le milieu n'est pas nécessairement très facile. Là. J'ai la chance de pouvoir dire que j'ai fait partie des quelques rares à pouvoir en vivre. Mais encore une fois, le mot-clé ici, c'était « en vivre ». C'était pas... d'avoir un revenu stable, c'était pas un revenu fixe, c'était de pouvoir s'arranger. Fait que j'ai commencé à en faire, puis lorsque j'ai réalisé que j'avais plus de contrats que qu'est-ce que je pouvais offrir moi en tant qu'individu, ben j'ai décidé de m'incorporer. Puis là maintenant, c'est une compagnie qui s'appelle De Gloire et d'Aventure, puis on est spécialisé dans les jeux de rôle, donc Donjon Dragon, L'Appel de Cthulhu, Vampire the Masquerade. J'ai aussi créé un système de jeux de rôle que j'ai pas encore mis sur le marché parce que pour l'instant, j'essaie de le développer. Je veux que ça soit vraiment quelque chose de bon puis de solide. Je veux pas créer un système pour créer un système. Mais je pense que les choses se portent quand même assez bien. Puis récemment aussi, on s'est lancé dans l'organisation de Grandeur Nature.
Oui, c'est ça que j'ai vu. Parce que là, tu parlais de jeux de table, mais tu as aussi fait des Grandeur Nature.
Oui, c'est ça. Donc, avec différentes écoles de la Ville de Québec, de la commission scolaire, on se faisait un an qu'on organisait un Grandeur Nature. Puis c'était quelque chose qui, moi, me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que c'est ça qui, quand j'étais plus jeune, m'avait fait découvrir ce qui sont devenus mes amis avec qui je vis en ce moment, avec qui je fraternise encore beaucoup. C'est 8 ans d'amitié pour certains, puis d'autres, c'est quasiment une quinzaine d'années. Là. Donc, c'est des amitiés qui sont super solides. Puis moi, ça avait pas changé ma vie, mais ça avait beaucoup changé mon parcours d'avoir fait un Grandeur Nature, parce que ben c'est ça, tu sais, j'étais quelqu'un à l'époque qui était très introverti, qui avait pas nécessairement l'envie d'aller à l'extérieur, sauf que j'adorais tout ce qui était médiéval fantasy, j'adorais tout ce qui était jeu de rôle, puis ben ça m'a comme forcé, entre parenthèses, à sortir de chez moi. Fait que là, j'avais commencé à faire du travail manuel. T'sais, pour fabriquer des épées, ben, ça prend du scotch tape, du PVC, ça te prend des outils. Ensuite, si tu veux avoir un bouclier, ben, il faut que tu trouves une manière de t'en fabriquer un bon marché. Puis ensuite, lorsque tu vas dans le Grandeur Nature, ben, t'es dans la forêt. Fait qu'au final, c'est du camping. Lorsque tu te bats avec ton personnage, ben, contrairement à lancer des dés, ben là, tu fais un effort physique pour de vrai, qui est quand même assez conséquent. Là. Vous essaierez de courir une fin de semaine au complet avec une armure en métal sous le dos, c'est du sport.
Je
chantante à tous les gens qui vivent en 1200, j'imagine.
C'est assez intense. Puis en plus que nos reproductions sont pas toujours aussi pires qu'ils étaient.
Ah, ben non.
Des fois, elles sont vraiment plus légères qu'ils les font. Là.
Ah, ben oui, ben c'est fait pour, en fait. Là. C'est du matériel de jeu de rôle. On s'entend, il y a personne qui va se faire empaler avec une lance pendant qu'un cheval le pourchasse.
Ben non, c'est
sûr. En tout cas, à ma connaissance.
Ben, les armes, mais il s'est rendu assez... ils sont rendus assez sophistiqués. T'sais, dans mon époque, quand j'étais kid, moi aussi, on était beaucoup là-dedans. T'sais. Puis on les construisait avec des PVC qu'on faisait nous-mêmes. T'sais, on en achetait des PVC au Canac Marquis. Puis après ça, on se faisait ça tapé avec, je pense, c'est de la mousse. Là.
Ouais.
Mais là, maintenant, c'est rendu assez sophistiqué. Là. Tu peux acheter des épées qui ressemblent à des vraies épées, mais qui sont en mousse. Là, t'sais.
Ouais, ben, je ne sais plus exactement le nom de cette mousse-là, mais c'est quand même assez fascinant. Moi, j'en ai quelques-unes que j'avais achetées justement pour le Grandeur Nature. Puis tu peux fesser plein swing avec ça, puis ça fait pas mal. Là. À moins que tu vises la tête, mais on s'entend qu'on essaie de pas viser la tête.
Non.
Généralement, c'est comme une règle écrite, non écrite, dite, redite. Puis justement, un truc qui est le fun aussi avec l'activité qu'on avait organisée, moi, j'étais vraiment content quand la société jeunesse, donc ceux qui s'occupent des entreclasses, m'avaient proposé de créer cette activité-là avec eux, parce qu'on ressort quand même de plusieurs années de pandémie, ce qui fait que la majorité des jeunes secondaires en ce moment, ceux qui sont secondaire 3 et moins, là, ils n'ont jamais fait d'activité parascolaire en extérieur. Là. Ils n'ont jamais eu cette opportunité-là, ou les quelques rares qui ont eu cette opportunité-là, c'était avec un masque, c'était avec des restrictions quand même assez folles. C'était très limité, très limitant. Fait que ça, j'ai constaté, lorsqu'on a fait cette activité-là, que ça le fait vraiment beaucoup de bien aux jeunes. T'sais, on avait à peu près une trentaine de jeunes, on était 12 organisateurs, qu'on a fait ça pendant une fin de semaine au complet au camp Amic, à Saint-Féréol-des-Neiges. Puis, on avait créé des quêtes, on avait caché des trésors, on leur avait créé tout un arbre de compétences où ce qu'ils pouvaient posséder des pouvoirs, de la magie, ce genre de choses-là. Puis ça les avait vraiment déchaînés, là, où ce que tu voyais que c'était un besoin qu'ils avaient de pouvoir lâcher leur fou, de pouvoir socialiser, de pouvoir courir en forêt. Parce que autant que c'est important d'être derrière les bancs d'école, si tu veux garder tes jeunes focus sur les bancs d'école, il faut que le reste du temps, ils se défoulent. Puis c'est une des choses, en fait, qui m'a fait dire... Tu sais quoi, on va se lancer à fond dans cette activité-là, on va se lancer à fond dans De Gloire et d'Aventure, on va créer vraiment la compagnie, puis on va en faire notre métier temps plein. C'est que non seulement pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que j'en ai fait, puis je l'ai vécu à moindre échelle, parce que moi, c'était c'était pas organisé avec autant de détails. T'sais, on n'avait pas de compagnie spécialisée là-dedans, mmh. comme qu'est-ce que je fais en ce moment. Mais ça avait fait une différence. Puis j'ai constaté aussi que chez ces jeunes-là, ça fait une énorme différence.
C'est essentiel même que je te donnerais des applaudissements, je pense.
Merci, merci.
Ça, c'est vraiment... Mais pour de vrai, ce que tu fais, c'est super bénéfique là, pour les jeunes. Mm-hmm. Puis je me demandais comment que ça a parti, ce projet-là. Parce que là, t'es rendu quand même assez big. Là, je vois que t'as des invités. On pourra en reparler tantôt. Mm-hmm. Là, t'as comme un gros setup. Mais avant, quand t'as commencé, ça a parti de où? Puis c'était quoi ton désir? Quand tu l'as fait, tu t'es dit... Comment ça a parti, ça?
OK. Ben en fait, moi, initialement, j'avais commencé à faire du cinéma dans une maison de jeunes, la maison des jeunes, c'est Jean-Baptiste, où ce que lorsque j'étais allé, ça m'avait vraiment débloqué quelque chose. Au secondaire, je faisais pas beaucoup de parascolaires. J'étais pas quelqu'un qui socialisait beaucoup. J'étais plus derrière mon ordinateur la plupart de mes amis, c'était sur Internet. J'étais quand même... sous toute modestie, relativement brillant à l'école, mais je manquais des cours, ce qu'il faut pas faire, parce que j'avais rien qui me représentait moi. Puis quand j'avais commencé à faire du cinéma, d'un seul coup, ma motivation avait vraiment beaucoup monté. Puis j'avais senti cette espèce de besoin de redonner, en fait, ce que j'avais reçu. Fait que j'avais écrit à cette maison des jeunes-là, ou ce que je leur avais proposé initialement. Donc j'avais donné quelques cours de cinéma aussi à l'époque, auprès d'eux. Puis je leur avais écrit pour leur dire, ça pourrait être le fun, juste aller faire du jeu de rôle une fois à l'occasion pour voir, tâter le pouls, voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne que les algorithmes sont bien faits chez Facebook, parce que lorsque j'ai commencé à envoyer comme de quoi que je voulais faire cette activité-là, j'ai vu quelques petites offres d'emploi sur de l'animation de jeu de rôle au Centre du Rocher. Fait que j'avais commencé à en faire là-bas. Sauf que quand j'en ai fait là-bas, les jeunes qui étaient là, eux, forcément, ils ont des écoles dans lesquelles ils participent puis ils vont. Puis ils avaient tellement trippé sur l'activité que j'avais faite qu'ils ont commencé à en parler à leurs entreclasses, à en parler à leurs techniciens dans le loisir. Leurs techniciens et techniciennes dans le loisir, là, c'est majoritairement des femmes avec lesquelles je travaille en ce moment, mais il y a des techniciens hommes. Fait qu'ils m'ont écrit. J'imagine que c'est le centre qui avait donné mon courriel, mais donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit on serait vraiment intéressé à ce que tu viennes en faire. Fait que là, j'ai commencé à en faire dans une école plus le centre. J'ai commencé à en faire dans deux écoles plus la maison des jeunes. Puis là, à un moment donné, à force d'en faire, je me dis c'est lucratif, j'adore ça. Puis ça pogne au bout, là, genre tout le monde veut de mes activités. Puis tu sais, les petits applaudissements que tu m'as donné tout à l'heure, j'en ai eu pendant que je faisais les parties parce que. Sans prétention, je pense que je suis quand même un relativement bon orateur. Puis j'établis le lien quand même assez facilement avec les gens, règle générale, ce qui est autant un avantage qu'un désavantage, j'ai envie de te dire. Mais avec les jeunes, c'est essentiellement positif. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, on est dans une bonne lancée. Fait que c'était il y a à peu près 3 ans, ça. Fait que j'ai commencé à contacter d'autres écoles. Puis je leur ai proposé mes activités. Il y a des écoles qui ne savaient pas trop ce que c'était, en fait. Ce qui m'a, en fait, motivé plus encore à aller en faire là-bas, parce que je me disais, c'est sûr et certain qu'il y a des jeunes qui ont envie d'avoir ce genre d'activité-là. Sauf que si le technicien ou technicienne non laser ne sait pas ce que c'est, il n'ira jamais le chercher par lui-même. Puis je pense que la plupart de ces jeunes-là aussi, on s'entend quand on est au secondaire, notre premier réflexe, c'est pas de se dire aucune activité me représente. Et si j'allais demander au technicien en loisir de me faire une activité qui me ressemble? Généalement, s'il n'y a pas d'activité qui nous ressemble à l'école, on fait juste pas aller aux activités.
On est triste.
C'est ça, exact. On est triste dans notre coin. J'ai commencé donc à en faire dans plus d'écoles, puis ça a grossi de plus en plus. Puis j'ai constaté aussi que dans certains cas, en fait, ça avait limité un peu le décrochage scolaire chez certains de mes jeunes.
Okay.
C'est-à-dire que dans certaines écoles, il y a des jeunes qu'on les avait presque plus. Là. C'est ça que je m'étais fait mentionner. C'est-à-dire que moi, je les voyais tout le temps. Ils étaient tout le temps à mon activité. Dans ma tête, c'était des jeunes qui allaient tout le temps à l'école. Puis à un moment donné, je me fais dire, il est tout le temps là lorsque tu fais ton activité. Puis là, je me dis, je le sais pas. Moi, quand je suis pas là, il est pas là. Fait que je peux pas le savoir. Fait que là, je me dis, OK, il y a quelque chose d'intéressant. Fait que je décide de pousser un peu là-dedans sur ce phénomène-là parce que ça m'a rappelé que moi-même, j'avais peut-être tendance à être plus là lorsque je savais qu'il allait avoir ce genre d'activité-là à l'école. Puis en creusant, je discutais notamment avec les techniciens dans le loisir de certaines de mes écoles qui m'ont mentionné c'est à ça que ça sert le parascolaire au final. Là, ça sert à rattacher les jeunes. Lorsqu'on donne des bourses d'études pour les sportifs ou lorsqu'on fait ce genre de choses-là, règle générale, c'est pour les garder à l'école parce que si on fait pas ces activités-là, il y a rien qui leur ressemble, ils n'ont pas de raison de venir, ils viennent pas. Fait que ça avait commencé à me faire comprendre que ça avait beaucoup de bénéfices, autant pour les jeunes que je le faisais que pour moi, que pour les écoles. Fait que j'ai creusé. Puis j'ai commencé à pousser mes études là-dedans. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai commencé... je t'ai envoyé le document d'ailleurs tout à l'heure, si jamais tu veux l'ouvrir quand on aura fait la pause. Mais j'ai lu donc des trucs de sociologie et de psychologie de l'enfance de plus en plus. Puis ça m'a appris beaucoup de choses. L'une d'entre elles, en fait, c'est que la fiction crée l'empathie. Dans le sens où, tu sais, quand tu regardes un film, ben, la musique ou tout ça, ça vient comme sublimer l'expérience. Mais ultimement, si tu pleures devant la mort de Hachi, parce que c'est triste, là, Hachi, t'es en train de pleurer pour de vrai. T'sais, ton cerveau, il comprend que c'est un film, mais il fait pas réellement la distinction entre le fait que c'est un vrai chien qui meurt puis le fait que c'est dans un film. T'sais, lorsque le film se termine, t'es capable de revenir, tu te reprends. Fait que on parle pas dans le sens délirant, mais c'est quand même quelque chose qui se produit pour de vrai. Donc le cerveau, que ça soit une fausse tristesse ou une vraie tristesse, entre parenthèses, c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées que les études démontraient. Là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose de cool à faire avec ça. Fait que j'ai commencé à proposer mes services, pas pour faire de l'intervenance, mais pour essayer de voir si on pouvait pas aider un petit peu les jeunes avec certains problèmes qu'ils ont. Puis surtout, l'avantage qu'on a, puis que les techniciens et techniciennes en loisirs ont dans les écoles, c'est qu'à partir du moment où ils sont pas nécessairement des figures d'autorité, même s'ils le sont, on s'entend, mais aux yeux des jeunes, c'est moins ça. T'sais, on est plus la personne cool qui vient avec laquelle ils ont du plaisir, ils ont du fun. Bien, ils ont plus tendance à s'ouvrir, à parler de leurs problèmes. Puis ça, bien, c'est intéressant parce que eux, ça leur fait du bien. On sait maintenant qu'il y a des adultes de confiance à qui ils se confient. Puis si jamais, à un moment donné, il y a quelque chose de grave qui se produit, ce qui déjà m'est arrivé, en fait, je m'étais fait confier quelque chose qui n'avait pas été dit à personne de l'école. Puis moi, j'ai été voir les ressources nécessaires pour aider ce jeune-là. Ça fait une méchante différence là, au niveau de leur développement. Là. Juste le fait de sentir qu'il y a des adultes en qui tu peux avoir confiance. Puis je sais pas pour vous qui nous écoutent dans vos voitures ou à la maison en ce moment, mais moi, la majorité de mes souvenirs à l'école, c'est pas le cours de mathématiques dans lequel j'étais, même si ça reste très important. C'est le grandeur nature que j'ai fait, c'est les games de Donjons Dragons, c'est les amis que j'ai rencontrés. Sauf que pour rencontrer ces amis-là, ben, ça prend du parascolaire, ça prend un adulte qui le fait, qui a un souci de toi, parce que sinon, en grandissant, ben, tu vas peut-être sentir que tu peux pas faire confiance aux adultes ou que c'est ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, en fait. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup d'impact positif, puis j'ai décidé d'approfondir là-dedans, en fait.
Magique. Mais c'est ça, mais ce que tu parlais tantôt, ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que quand tu écoutes un film ou que t'es exposé à des émotions, dans le fond, ces émotions-là, tu disais, c'est comme une fausse tristesse, mais en fait, c'est comme... c'est une tristesse qui est intérieure, tu sais, c'est de quoi qui fait ressortir. Fait que ce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est que les grandeurs nature, puis ce que tu fais... Les jeux de rôle peuvent aider justement à rentrer en contact avec tes émotions,
ouais,
d'une certaine façon.
Très littéralement, en fait, j'ai certains jeunes avec lesquels disons que je suis en contact avec les écoles pour qu'on essaye un peu de travailler ça, justement. J'ai certains jeunes, en fait, que dans la vie en général, là, se faire ressortir leurs émotions, ouais, c'est pas tout à fait ça. Puis quand ça sort, c'est vraiment embouillonnant, tu sais, c'est pas du tout contrôlé. Puis lorsque tu fais la partie, ben tu sais, eux dans leur tête, ils sont en train de jouer un personnage, puis c'est vrai qu'ils sont en train de jouer un personnage, fait qu'ils viennent comme un peu se dissocier de qui ils sont, mais les choses qu'ils apprennent, puis les interactions qu'ils ont, ils restent réelles. Fait que quand c'est contrôlé, quand c'est bien fait, on s'entend là, tout peut être négatif lorsque c'est pas bien géré, mais à partir du moment où tu as quelqu'un qui est professionnel là-dedans ou quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de choses-là, qui a approfondi ses études dans le domaine de la psychologie de l'enfance ou qui est vraiment un très très bon orateur, parce que tout le monde peut faire du Donjon Dragon. Là. Tu prends une feuille, un papier, un crayon, puis c'est le fun, pis c'est intéressant, mais le faire sous un bon climat avec un bon contrôle, de la même manière que tout le monde peut jouer au basket, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir un coach de basket parce que comme ça, ben, tu comprends bien les règles, tu comprends les bonnes techniques, mais c'est la même chose ici. Fait que moi, une des choses que je fais notamment, c'est que je mets comme une barrière magique qui fait que les joueurs peuvent pas se frapper entre eux. Fait que déjà, comme ça, on évite grandement qu'il y ait des disputes entre joueurs parce que c'est pas l'objectif. Tu veux qu'ils créent des liens entre eux. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des éléments de leur histoire, des trucs qu'ils ont mis avec leur personnage, puis je vais comme forcer l'histoire à ce qu'ils soient obligés de travailler ensemble. Tu sais, c'est arrangé.
C'est souvent ça, en fait.
Ben, exact. Mais c'est que ça prend un Big Bad Evil Guy. Puis juste en faisant ça, ben, tu viens allait comme les amener devant une adversité commune. Tu sais, on s'entend. C'est ils ont pas réellement tué un dragon dans la vraie vie, mais si le cerveau peut être triché comme ça avec un film, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être triché aussi dans une aventure de Donjon Dragon? Fait qu'à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est, tu sais quoi, on va leur faire vivre des trucs, là, qui, en jeu, sont très, très, très difficiles, où ils vont passer des semaines à pas être capables de manger, puis ils vont être obligés de s'entraider, le prêtre va être obligé de soigner le guerrier, tout ce genre de choses-là.
Ça crée un lien, dans le fond.
Ben, c'est ça, exact, c'est ça. Parce qu'après ça, les jeunes, ils sont tellement contents les uns envers les autres que, ah, t'as sauvé mon personnage, je pensais que j'allais mourir, nanani, nananar. Puis à partir de là, c'est fait. Genre, tu pars pendant ta semaine, parce que je suis à peu près une fausse semaine avec chaque école, puis lorsque tu reviens la semaine d'après, c'est rendu le meilleur ami du monde. Mmh. Fait que ça fait une belle différence. Puis encore une fois, pour les jeunes, que c'est plus difficile pour eux de gérer leurs émotions, ben, un exemple que j'aime donner, c'est, j'avais eu une partie où... Le jeune, il était bien fort là, sur les jokes homophobes. T'sais, il se trouvait bien, bien drôle. Puis, il les enchaînait quand même assez régulièrement. Fait que moi, ce que j'ai fait, je savais qu'il aimait les personnages qui parlent fort, avec une grosse voix, qui sont baraqués. T'sais. Fait que j'ai commencé à introduire un personnage qui est comme ça, qui était un dragonné qui s'appelle John, qui était comme un paladin, là, grand, fort, virtueux, qui crie, qui court, qui joue. Et à force de le faire avancer dans les aventures, ben, c'est vraiment, vraiment beaucoup lié d'amitié avec ce personnage-là. Puis, au détour d'une phrase, tu sais, j'ai pas poussé, j'ai rien. L'étude dont je parlais, justement, qui est « La fiction crée de l'empathie », mentionne aussi que ça peut être très, très bon pour tout ce qui est inclusivité. Ben moi, ce que j'avais décidé de faire, c'est qu'au détour d'une phrase, il y a John qui dit « Donc là, le jeuneau, quand on va finir l'aventure, qu'est-ce que t'as l'intention d'aller faire? » Fait que là, tous les jeunes en parlent, puis ils mentionnent « Ah, ben moi, quand l'aventure va être terminée, je vais retourner voir mon copain. » Puis on va peut-être se prendre une ferme. Puis plus jamais je mentionne le copain, puis je fais juste continuer comme ça. Et je te jure qu'à partir de ce moment-là, plus aucune joke homophobe. Alors du moins pas en ma présence. Plus jamais. Genre, c'est comme s'il y avait eu peur d'insulter le personnage. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Mais tu sais, déjà, il faisait pas ça pour mal faire. C'est juste que, tu sais, quand t'es jeune, des fois, être subversif, tu trouves ça drôle.
Ouais, ouais.
En fait... c'est qu'il y avait personne dans son entourage qui pouvait vivre des conséquences des jokes qu'il faisait, fait qu'il se permettait de les faire. Mmh. Puis à partir du moment où il a comme senti que ça pouvait affecter, ah, là, plus jamais, genre, fait que... je pense que je me suis fait dire un an et demi après, il a comme recommencé un petit peu à en faire, mais là, malheureusement, il y a so much que je peux faire par rapport à ça. Tu sais, l'environnement, l'entourage, c'est des choses qui sont plus permanentes que les parties de jeu de rôle, mais tu sais, c'est de se dire que ça a quand même fait une vraie différence, là, au niveau de son comportement.
Quand même. Mm. Mais c'est surprenant, tu sais, puis je pense que c'est comme lié d'amitié à ce personnage-là, ouais. Fictif d'une certaine façon.
Ah, ben, tout à fait, de telle manière que les games où ce personnage n'était pas là, ben, il mentionnait avoir eu moins de fun que les games où le personnage était là, alors qu'au final. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, ben, on s'entend, ça reste moi qui joue les personnages, ou ça reste mes employés, ou ça reste ce genre de choses-là, mais ils viennent quand même créer un certain lien avec ça. Fait que, notamment pendant le Grandeur Nature, vu que c'était beaucoup des groupes de mes groupes de Donjons et Dragons ou des groupes de mes employés. Mais ce qu'on avait décidé de faire, on avait mis quelques petites références au game de D&D, puis ça... excusez. Puis ça avait fait en sorte qu'il y avait eu tellement de plaisir, juste des petites références ou des trucs anecdotiques qui s'étaient produits. Comme j'ai eu un jeune avec son groupe d'aventuriers, ils avaient réussi à battre le grand méchant. Là. T'sais, ils avaient triomphé de lui, puis ils l'avaient anéanti. Donc, pour ceux qui sont plus néophytes là-dedans, Donjon Dragon, c'est un système à des 20. Donc, si t'as un 20, c'est une réussite critique. Si t'as un 1, c'est une échec critique. Puis généralement, tu vas lancer le dé lorsqu'il y a un doute raisonnable à se dire si ton action fonctionne. Fait que, par exemple, imaginons que je suis, je sais pas moi, Georges Saint-Pierre, puis que je veux soulever une table. C'est facile, je suis Georges Saint-Pierre, j'ai pas besoin de lancer de dés. Par contre, si je dis que je suis quelqu'un qui a étudié pendant une centaine d'années dans une tour à la lueur d'une bougie, ben les chances que je sois capable de soulever une table sont négociables. Fait qu'à ce moment-là, tu vas faire les fameux jets de dés. Puis ils m'avaient détruit, là. Ils avaient enchaîné les 20. Sauf que quand ils ont terminé, le jeune en question, il a décidé qu'il voulait juste partir chasser. Et à ce jour, il a toujours pas réussi à attraper l'orignal. Fait que il enchaîne les 1, les 2, il a pas des bons jets de dés. Fait que ça a créé une grosse, grosse, grosse anecdote qui faisait en sorte qu'il a réussi à battre le monstre ultime, mais l'orignal, il est tout le temps plus intelligent que lui. Fait que c'est devenu le gros running gag dans l'histoire. Fait que dans le Grandeur Nature, on avait implémenté ces choses-là. Puis ben, c'est aussi une opportunité, en fait, pour le jeune, quand il est avec d'autres jeunes de d'autres écoles, de dire « Ah, ça, c'était ma game de Donjon Dragon. » Fait que là, les jeunes dans les autres écoles « Ah ouais, vous avez eu ça, nous, ça avait plus été ça. » Puis encore une fois, ben, tu permets de des liens, tu permets de créer des choses. Fait que moi, la plus belle récompense que j'avais eue lorsque j'avais organisé ça, justement, c'était de me dire waouh, tu sais, là, cette activité-là a permis de créer des amitiés. Là, cette activité-là, je pense même que ça a créé un couple dans les écoles. Là, wow. À voir si ça va tenir. Là, on s'entend quand t'es au secondaire, des fois, ça peut c'est chambranlant. Mais ça a fait quand même une belle différence.
Génial. Ben, il y a une autre affaire que j'espère qu'il va faire une différence, mais c'est... oiseaux. Okay, c'est sûr. Fait que, ben, j'espère que ça va faire une différence dans votre vie, la pause. T'sais. Prendre une pause, des fois, c'est bon. Après ça, on revient avec plus de discussions puis de la musique. Donc, je suis tout mêlé dans mes ordi. Les gens ne voient pas ça, mais j'ai l'air d'une pire.
Je te comprends. Écoute, pour avoir déjà travaillé à la console où t'es, là, c'est pas simple. Là. C'est, la console, des fois, elle est...
C'est ça, deux ordinateurs. Fait que voilà, j'envoie la pause et on se dit à bientôt.
À bientôt.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à l'art des histoires avec moi-même, Ludovic Gingras. Oh, attention, on va pas mettre d'autres musiques. Fait que voilà, écoute, c'était Stranger Things. Ben là, j'ai mis deux chansons de Stranger Things. La première était Stranger Things, le thème que beaucoup de gens ont dû reconnaître, j'imagine. J'espère que vous n'avez pas fait des cauchemars pendant que j'ai eu, parce que c'est quand même assez troublant comme émission là, quand tu penses à ça.
Ah, particulièrement la dernière saison.
Ah, la dernière saison, mon Dieu. Elle nous laisse sur un cliffhanger de fou.
Ah, de malade.
Puis la deuxième chanson, c'était Kids. Puis ça, c'est composé par Kyle Dixon et Michael Stein. Fait que voilà, Stranger Things, ben oui, Stranger Things. Toi, parce que là, je me suis dit... En fait, parce que nous, à l'émission, on est...
Thématique.
Puis là, ben, et on parlait de Donjons et Dragons. On peut pas passer à côté de la série Stranger Things. On peut pas... Parce qu'on s'entend que Stranger Things, les gens qui savent pas, c'est une série qui est sortie, je pense, en 2016?
Je peux plus dire exactement, mais c'est un petit peu plus vieux que ça, je pense.
Mais, ouais, sûrement, mais ça a vraiment influencé beaucoup de gens à Donjons et Dragons. Parce que dans le fond, dans la série, il y a des jeunes qui jouent à Donjons et Dragons, mais finalement, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un univers... parallèle qui se réveille dans leur dans leur ville. Puis c'est peut-être dû au jeu, mais ou peut-être que juste comme une façon de révéler ce qui arrive, parce que ce qui arrive, ils font comme une campagne, puis ce qui arrive dans la campagne, c'est qu'un jeune se fait attaquer par un monstre, puis je pense qu'il disparaît, genre, ou de coup de genre.
Ouais, exact. Ben,
mais ça arrive dans la vraie vie.
Puis, en fait, un des trucs que je trouve le fun, parce que ça va me permettre aussi d'en venir au fait que j'ai une formation en scénarisation. Stranger Things, souvent, ce qui fait que son épisode 1, c'est qu'il va créer des parallélismes, dans le sens où les choses qui vont se produire dans la game de D&D de l'épisode 1 de la saison, fait que saison 1, saison 2, saison 3, ça va souvent t'indiquer qu'est-ce qui va se produire dans le reste de la saison. Donc, par exemple, au premier épisode de Stranger Things, ce qui s'était produit, c'était que Will Schuster, son personnage se fait tuer. Fait que là... ou pas, il se fait tuer, je pense.
Il s'était pas tué, il se met comme KO, genre, il est comme dans une autre dimension, genre.
Il se faisait vaincre, là, puis le méchant, dans leur game de D&D, c'était le démon Gorgon, qui est un vrai monstre qui existe dans l'univers de Donjons et Dragons, Wizard of the Coast. Même chose avec Vecna, soit dit en passant. excusez. Et donc, Will, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les épisodes subséquents? Ben, il se fait kidnapper. Puis de la même manière que dans les parties de Donjons et Dragons, ben, Will, c'est le mage. Ben, qu'est-ce qui se passe dans les saisons qui suivent? Puis là, je vais devoir divulgacher un peu, je suis désolé, mais là, si vous avez pas entendu parler de la saison 2, à un moment donné, sortez de votre grotte. Donc, Will, il développe un peu des pouvoirs... psychiques, là, par rapport au monde à l'envers. Donc, il est pas comme Eleven, mais...
Il ressent les choses, puis il sait quand le mind... Ben là, c'est rendu mind flayer dans saison 2. Puis il sait quand il est là. Tu sais, il sent, il y a comme de quoi dans son cou, là, un sentiment... non, c'est vrai, mais j'avais pas pensé à ça. C'est que le mage, il s'est réveillé.
Fait que c'est le truc qui est vraiment le fun puis intéressant. Puis je pense que ça l'a beaucoup aidé à démocratiser Donjons et Dragons. D'un seul coup, c'était plus autant le truc pour les nerds qui sont dans leur sous-sol. Exact, c'est devenu cool.
C'est rendu mainstream. Tu vois, l'autre fois, j'étais allé à la Shop Goblin. Mm-hmm. Puis là, le monde, on a comme collé une partie de Donjons et Dragons avec du monde random. Puis là, tout le monde était genre, allez, du coup. Puis tu sais, du monde que t'aurais jamais pensé que ces gens-là auraient joué. Puis il y avait écouté Stranger Things 4, puis il était là, avec nous, voulait jouer.
Le mix Stranger Things avec la pandémie aussi, là, je pense que ça l'a donné un gros boost à tout ce qui est jeu de rôle, là, particulièrement Donjons et Dragons, parce que c'est quand même le leader dans le domaine, même si, bon, depuis le début de cette année, mettons que Donjons et Dragons, ils ont glissé un peu. Là. J'en parlerai plus tard si jamais ça t'intéresse, mais... je suis comme arrivé au bon moment, en fait, avec la compagnie où il y a eu Stranger Things, il y a eu toutes ces affaires-là. Fait que quand je suis arrivé, il y avait déjà un fort engouement pour cette activité-là.
Ouais,
même auprès de jeunes qui savaient pas nécessairement ce que c'était, ils savaient juste qu'ils voulaient en faire. Fait que je pense que c'est aussi ça qui a contribué au fait que je me fasse écrire par certaines écoles, là. Fait que comme quoi, des fois, dans la vie, c'est travailler fort et de la chance. C'est comme inévitable. 6 ans plus tôt, puis peut-être que moi, je n'arrive pas à faire les activités. Là, on ne sait jamais. Fait que c'est toujours important d'être reconnaissant envers la vie vis-à-vis ça. Puis justement, Stranger Things, un des trucs que ça me permet de voir, c'est que ça a démocratisé beaucoup l'univers du jeu de rôle. Puis moi, à l'époque, lorsque je faisais du Donjons et Dragons, c'était essentiellement une gang de gars qu'on était. Puis c'était très, très rare.
C'est souvent ça, ouais.
Ben, c'est souvent ça, mais...
ça change. J'ai vu dans tes images que c'est très mixte.
Ben oui, oui, c'est extrêmement mixte. Cool. En fait, c'est maintenant, c'est rendu moitié-moitié. Puis j'ai même envie de te dire, il y a plus de femmes qui font du jeu de rôle que de garçons. Du moins, il y a plus de jeunes filles que de jeunes garçons qui font du jeu de rôle.
C'est une bonne chose parce que ça devenait une affaire comme un peu des nerds que finalement, ils ne sont même pas exposés à l'autre sexe, puis ça fait qu'ils sont awkward, puis c'est quand même de quoi de pas pratique dans la vie s'ils sont capables d'interagir avec l'autre sexe.
Ben, exact, puis ça vient comme un peu perpétuer le stéréotype du nerd qui est dans son sous-sol. Puis moi, ça me fait penser, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais c'était moi qui avais apporté la première, je vais prendre des grosses pincettes, là, mais la première femelle à l'intérieur de mes games de Donjons et Dragons avec mes amis. Puis une des choses que j'avais voulu faire quand j'avais commencé la compagnie, c'était de me dire, crime, là, tu sais, Donjons et Dragons, tout le monde aime ça, là, genre
ben oui.
le théâtre et tout ça. Là, au final, c'est ça, là, une game de jeu de rôle, c'est du théâtre d'improvisation. Fait qu'il n'y a aucune raison que les gens n'aiment pas ça. Fait que comment est-ce que tu fais pour attirer cette clientèle-là? Oui, puis c'est beaucoup de la créativité. Sauf que finalement, ça s'était comme fait tout seul. Un truc que j'ai observé, en fait, c'est que je m'explique toujours pas tout à fait ce phénomène-là, mais si j'ai une game de Donjons et Dragons qui est exclusivement que des gars, puis que j'ai une seule jeune fille qui va être dans la game, elle a moins tendance à aimer la game. Mais je pense que c'est aussi parce que quand t'es adolescent, t'es peut-être un peu plus sur les hormones. Là, quand t'as 12-13 ans, tu veux tuer des créatures, puis triompher, tu veux sauver la princesse. Puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles finissent par comme quitter le groupe. Sauf que si t'as un groupe qui est moitié-moitié, tout le monde parvient comme à y trouver son compte. Puis encore une fois, ce que j'ai observé, puis tu sais, c'est au travers de plusieurs games, là. Ça fait 3 ans que je fais ça à temps plein. C'est que lorsque t'as des groupes qui sont parfaitement mixtes, tu vas avoir moitié de roleplay, moitié de combat. Puis plus les jeunes vont vieillir, plus ça a tendance à se mélanger. Genre, plus ils vont commencer à explorer. Sauf que plus ils sont jeunes, plus les jeunes garçons vont tendance à vouloir faire des combats, plus les jeunes filles vont avoir tendance à vouloir faire du roleplay. Fait que, moi, ça me fascine un peu, ça.
C'est quoi? Parce que là, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, on jouait à Donjons Dragons, mais on faisait pas tant de roleplay dans le sens que nous...
C'est du hack and slash.
Puis dans le fond, c'est ça, j'ai réalisé entre parents que c'est comme s'il y a plusieurs façons de faire ça. Parce que nous, on avait nos personnages, puis on achetait les figurines là, aussi. Mm-hmm. Là. Fait qu'on avait nos bonhommes. Fait qu'on jouait un peu comme à la troisième personne. C'était comme quand tu joues dans un jeu vidéo. Fait que là, mettons, je choisis mon bonhomme, puis là, je le joue à la troisième personne, puis c'était ça. C'était comme ça, c'est moi, ça.
Ouais.
Fait que je le jouais même. Mais toi, tu sembles parler de que t'es ton personnage.
Ouais.
Puis que là, toutes tes interactions, mais comment que tu vis ça? Parce que dans le fond, je suis un peu... Je comprends pas trop, là, comment, c'est quoi la différence? Là?
Ben, dans le fond, puisque c'est un jeu imaginaire, on s'entend, ça prend un système de règles. Parce que je pense qu'on a tous déjà joué quand on était au primaire à se battre avec des épées magiques. Puis généralement, c'est moi, je te tue avec mon épée. Ouais, ben moi, j'ai un bouclier qui bloque ton épée. Ouais, ben mon épée est magique, fait qu'elle passe à travers ton bouclier. Ouais, ben moi, j'ai un dragon. Ouais, ben moi, je fais l'infini plus deux. Puis là, ça dégénère rapidement. Là, parce que quand t'es un kid, tu veux tout le temps être celui qui gagne.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que les systèmes de jeu viennent comme créer puis favoriser certains trucs. Fait que Donjons et Dragons, c'est un système de jeu qui va favoriser d'être un héros, d'être le personnage qui est cool dans l'aventure, de la même manière que, mettons, si tu prends le système Cthulhu, qui est basé sur les écrits d'H.P. Lovecraft, le mythe de Cthulhu, c'est un système dans lequel t'es faible, t'es vulnérable, t'es quelqu'un qui est exposé au danger. Ça va comme venir guider comment est-ce que tu vas jouer, sauf que tous les systèmes sont bons pour faire à peu près tout. C'est vraiment une question de qu'est-ce que tu recherches. Puis, dans Donjons et Dragons, comment je l'explique, moi, souvent, c'est qu'il y a comme 3 phases, 3 choses que tu peux faire avec cet univers-là. Donc, tu vas avoir les phases de combat. Ça, c'est vraiment, c'est du jeu de plateau. Donc, s'il y en a qui ont joué à des jeux RPG au tour par tour, genre Fire Emblem ou ce genre de jeu-là, ben, ça va être globalement très similaire. Puis, c'est souvent ça qu'on fait lorsqu'on est au secondaire, puis qu'on n'a pas un maître de jeu professionnel ou qui s'y connaît là-dedans qui va faire, ou quelqu'un qui n'a pas nécessairement envie de faire de la scénarisation. Parce que créer un univers entier, c'est long, c'est compliqué, c'est demandant.
Ouais, vraiment.
Donc, c'est souvent ça qui va être fait. Sinon, il y a l'investigation. Donc, l'investigation, ça va être, par exemple, vous venez d'entrer dans une pièce, autour de vous, il y a des torches qui sont allumées, qui sont bleutées, qui ont l'air un peu magiques. Lorsque vous entrez, vous entendez le cliquetis de gouttes d'eau qui tombent. Ça fait un certain temps que vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Fait que là, c'est la phase pendant laquelle les joueurs vont poser des questions, vont s'intéresser à ce qu'il y a. Donc, ils vont, par exemple, ben, les flammes sont bleues, des flammes, c'est pas bleu. Fait qu'ils vont poser des questions. Fait que ça, c'est une phase pendant laquelle je suis comme en train de les amener à stimuler leur créativité, puis aussi à les amener à essayer de mettre ensemble des morceaux communs. Parce que ben, si dans un film, tu vois que le dé tombe sur 20, par exemple dans Stranger Things, C'est pas anecdotique. Le vin, il va revenir. Le vin, il y a une métaphore, il y a une symbolique derrière. Lorsque vous faites quelque chose en scénarisation, c'est le principe du fusil de Tchekhov qu'on appelle. S'il y a un fusil à l'acte 1, il sert à l'acte 2. C'est garanti. Donc, ça les amène à comme mettre les pièces ensemble. Fait que les torches sont bleues, ben ça doit signifier qu'il y a quelque chose de magique dans la pièce. Ça doit signifier qu'il y a un monstre, ça doit signifier qu'il y a une créature. Fait que ça, c'est la phase d'investigation. Puis ensuite, tu as les phases de roleplay. Puis les phases de roleplay, moi, personnellement, c'est mes préférées. C'est le moment où tu vas incarner ton personnage. Donc très souvent, lorsque tu commences à faire du jeu de rôle puis que tu es moins familier un peu avec ça, tu vas dire ben mon personnage dit ça. Par exemple, mon personnage dit bonjour ou mon personnage entre dans le magasin puis veut acheter une épée. Moi, ce que j'aime à amener les jeunes à faire à force, c'est d'essayer d'incarner leur personnage parce que c'est comme ça que je les amène à comme développer leurs habiletés sociales, à développer leur faculté à parler, puis aussi à négocier. Par exemple, je vais arriver, je vais dire « Bien le bonjour, aventurier! Est-ce que vous avez l'intention de nous acheter quelque chose ici? » Donc, lorsqu'ils vont entrer, ben, ils vont essayer de parler comme étant leur personnage. Que, on s'entend, moi, je fais des voix, moi, je fais une ambiance, tout ça. Ça fait longtemps que je fais ça. On n'est pas obligé de faire ça dès le départ. Là, on peut tout à fait garder sa voix. Là, d'ailleurs, ce que la plupart de mes jeunes font. Mais c'est intéressant de ce côté-là parce que ça les amène à développer leur personnage, leur créativité, à créer aussi quelque chose en dehors de l'univers. Parce que moi, je leur présente voici l'univers, voici le jeu. Sauf qu'ensuite, une fois qu'ils ont fait leur personnage, ben, tu sais, souvent ce qui se passe, c'est qu'ils vont dessiner leur personnage, ils vont en discuter avec les autres, ils vont se créer comme toute une histoire. Fait que c'est divisé dans ces trois phases-là.
Une question qui m'est venue par rapport au jeu de rôle, est-ce que quand les personnages, les jeunes se créent un personnage, est-ce qu'ils vont ressortir de leur personnalité ou c'est une façon pour eux de sortir de leur ego puis comme de laisser ça de côté? Comment est-ce que c'est ou qu'il y a peut-être des formes variées aussi, un mélange des deux?
Ouais, je te dirais la vraie réponse, c'est de dire que c'est varié. Par contre, les observations que j'ai fait à force d'en faire, parce que c'est ça, moi, j'aime beaucoup les statistiques. Fait que je me suis fait un tableau Excel là, voici tel jeune, voici tel. Tu sais, je mets pas leur nom dans le tableau Excel, là, mais je vois quelle population, quel âge, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je le sors pas de nulle part lorsque je dis plus ils sont jeunes, les garçons, plus ils ont tendance à vouloir faire du hack and slash. Puis c'est vraiment en vieillissant qu'ils se mettent à faire du roleplay. C'est vraiment, c'est observé. Est-ce que j'ai comme une bulle? Peux-tu répéter ta question?
Est-ce que émotionnellement, mettons, quand les jeunes se créent un personnage, les trois, est-ce que c'est ils mettent leur ego de côté ou leur personnalité ressort ou un mélange des deux?
La majorité du temps, ce qui se passe, c'est que lorsque le premier personnage qu'ils font, ils vont créer un gros lien émotif avec ce personnage-là. Puis moi-même, là, à ce jour, mon personnage, Radalf Castaciel, je le joue encore, tu sais, je le mets dans mes games, puis tu vas développer un gros, gros lien émotif avec lui parce que c'est ton premier personnage.
C'est même la forge de Castaciel.
Ouais, exact. Yes, il a compris la référence, let's go. Pour ceux qui veulent comprendre la référence, vous pouvez aller sur ma page Facebook de Gloire et d'Aventure, je me permets une petite pub.
Ouais, vas-y, on va en faire de la pub en masse.
Ah ouais, puis c'est ça, créer un lien émotif. Fait que plus souvent qu'autrement, le premier personnage qu'ils vont faire, j'aurais tendance à dire que c'est comme un pan de leur personnalité soit qu'ils vont vouloir développer, soit qu'ils pensent qu'ils possèdent déjà. Fait que soit leur personnage va rentrer dans des abus de pouvoir, là, comme je suis cool, je suis fort, puis ça, c'est vraiment, ils se dissocient de leur personnalité, c'est plus comme ça devient récréatif. Soit ils vont créer un personnage qui veut qu'il soit similaire à qui ils sont, auquel cas, souvent, ils vont jouer un personnage qui est un peu vertueux, qui va toujours faire la bonne action. Aspire à ça. Puis plus ils font des personnages, comme là, j'ai des groupes, ça fait 3 ans que je suis, plus ils vont se mettre à varier, plus ils vont se mettre à changer. Fait que, par exemple, le jeune en question que j'avais parlé qui était un petit peu borderline parfois avec ses blagues, lui, son premier personnage, ben, ça avait été un personnage justement qui, comme John, parlait fort, voulait tout le temps se battre. Puis plus il vieillissait, plus tu sentais qu'il voulait s'orienter vers le roleplay. Fait que même s'il continuait vraiment beaucoup de triper sur son premier personnage, il s'était mis à jouer des classes qui étaient un peu plus orientées vers le roleplay. Il s'était mis à varier. Puis c'est souvent ça que je motive les jeunes à faire parce que c'est tellement facile de créer ton premier personnage puis de tout le temps vouloir le jouer. Sauf que d'explorer, ben peut-être que tu vas te rendre compte que même si t'adores tel personnage, ben, c'est en vivant avec cette expérience, c'est en faisant d'autres choses que c'est intéressant. Puis je vais me permettre de mentionner aussi, parce que s'il y a des gens qui sont fans de jeux de rôle à la maison, le jeu de rôle, moi, je m'en sers comme étant une opportunité de montrer, en fait, puis on en parlera quand on mentionnera les ateliers d'été, mais comme étant une opportunité de découvrir autre chose à l'extérieur de cet univers-là. Comme par exemple, moi, lorsque je fais mes aventures, je suis très cinématographique, c'est-à-dire que je vais mettre de la musique, je vais mettre du bruitage. Donc, j'ai une application qui sert à ça, dans laquelle, s'il y a une explosion, ben, tu vas réellement entendre une explosion retentir dans la salle. Nice. Oh, ouais, je vais vraiment le niveau au-dessus, là, une coche au-dessus. Puis, j'ai déjà mentionné à une de mes jeunes, en fait, que si elle pense que Donjons et Dragons, c'est la vie, c'est que j'ai mal fait ma job. Parce qu'à un moment donné, elle avait dit « Donjons et Dragons, c'est la vie, c'est tellement incroyable », sauf que non, en fait, c'est un aspect de la vie, c'est un pan de la vie. Moi, je fais ces games-là pour qu'ils apprennent et qu'ils découvrent des choses. Puis la raison pour laquelle souvent je les encourage à jouer d'autres classes, à essayer d'autres personnages. Ben, peut-être que tu penses, quand t'es jeune, que t'aimes ça, genre jouer un paladin qui est grand, fort, vertueux, mais peut-être aussi que lorsque tu vas jouer un barde pour la première fois, puis que tu vas faire full de roleplay, puis que tu vas commencer à négocier, tu vas faire « Ah, oh, c'est donc belle fun de négocier! » Puis là, ben, ah, OK. Là, on vient de se rendre compte que le jeune, il trippe sur le fait de négocier. Ça peut peut-être orienter, pas nécessairement son futur choix de carrière, mais le genre d'activité qu'il va faire. Fait que ça peut être intéressant peut-être de l'envoyer, je sais pas moi... comment est-ce qu'on appelle ça déjà lorsqu'on fait la simulation des Nations Unies? Fait que ça pourrait être intéressant de l'inscrire là, ça pourrait être intéressant d'explorer un peu qu'est-ce qui fait qu'il aime autant négocier, parce que c'est pas juste son personnage. Fait que ça permet de découvrir des choses sur soi aussi.
J'avais même écrit une phrase que t'as écrite dans ton dépliant. Puis ça, je trouvais que...
Trop fort.
Bon, écoute, moi,
une légende.
Ah, merci, mais c'est parce que moi, je fais des recherches. Là. Fait que c'est ça, c'est marqué. Le jeu de rôle... à cet avantage que tous les arts peuvent y être imbriqués d'une manière ou d'une autre afin de renforcer l'expérience de jeu et permettre à ces joueurs, lorsque bien exploités, de découvrir des disciplines qu'ils n'auraient peut-être pas essayées autrement.
Trop fort pour la Ligue. Ben, exactement. Moi, dans un monde où j'ai jamais fait de Donjons et Dragons... Ah ouais, là, on va t'applaudir quand même. Dans un monde où j'ai jamais fait de Donjons et Dragons, je suis pas sûr que je fais du grandeur nature. Puis si je fais pas du grandeur nature, je rencontre pas mes amis actuels, puis ben ça coule de source comme ça. Puis le grandeur nature, j'ai une anecdote par rapport à l'un de mes amis, mais ça l'a comme transformé en gym bro, en fait, de faire du grandeur nature. Parce que...
gym bro!
Ouais, vraiment, parce que quand tu fais du Donjons et Dragons, en fait...
il s'entraîne.
Ouais, ben c'est ça. Ben tu peux dire mon personnage est fort, parce que tu crées des statistiques, puis tu lances des dés. Ouais. Sauf que quand dans ton grandeur nature, tu veux que ton personnage soit fort, tu sois fort. Fait qu'il avait commencé à aller s'entraîner, à aller au gym, puis à ce jour, donc vraiment, quand on était jeune, il était vraiment le stéréotype du nerd. T'sais, il sortait pas beaucoup, un petit peu arrondi ses bords. Puis maintenant, là, c'est l'homme le plus en shape de l'histoire des hommes en shape. Là. Comme tu le vois, là, il est musclé, ça ressort. Genre, quand il met un chandail, t'as l'impression que ses muscles vont le déchirer. Puis c'est vraiment, je pense... en fait, c'est partiellement à cause du Donjon et Dragon. Mais c'est fou à quel point juste une petite activité, ça peut aller loin. Puis moi, c'est quelque chose auquel j'aspire, c'est de me dire, tu prends des jeunes qui... normalement aiment pas nécessairement sortir à l'extérieur, ou tu sais, parce que souvent ceux qui vont faire du Donjon Dragon secondaire, c'est beaucoup ceux qui sont derrière leur console de jeux vidéo, parce que au final, je suis une console de jeu, moi. C'est juste que quand ils viennent, c'est avec un être humain qui interagisse.
C'est parce que leurs parents leur ont dit de lâcher la console, ben, fait que là, ils ont trouvé une autre façon.
Littéralement, c'est ça, sauf que tu vois, ben là, on passe de OK, ils trippaient sur les jeux vidéo RPG, mettons, ils jouent Oblivion, Skyrim, ce genre de choses-là. Fait que là, il est capable d'aller chercher ce que le jeu vidéo lui donnait avec un être humain, donc moi...
Et son imagination.
Ouais. Fait que moi ou un de mes employés. Puis à partir de là, ben là, ah, hey, d'ailleurs, le jeune... t'as-tu déjà fait ça du grandeur nature? Fait que là, ah, non, OK, j'ai jamais fait ça. Fait que là, ben là, on l'amène au grandeur nature. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ben, il court, il voit le monde extérieur, il est dans la forêt, il est dans la nature. Puis une des choses, on n'a pas de photo de ça, malheureusement, mais au grandeur nature qu'on avait fait, il y avait le copain d'une des techniciennes en loisir qui s'était pointé. Puis lui, c'est un gars de forêt, là. Fait qu'il avait apporté sa canne à pêche. Puis avec certains jeunes, une quête qu'ils ont eu à faire, c'était de pêcher des poissons. Fait qu'ils ont pêché des truites. Puis, ils les ont sortis, ils les ont ouverts, puis ben oui. Ils ont fait cuire sur le feu. Fait qu'il y a des jeunes qui ont mangé de la truite pendant le grandeur nature.
Ils ont appris à faire ça.
Ouais, exact. Fait qu'ils ont appris à faire ça. Puis, à partir de là, ben, Là, moi, ce que je m'attends qu'il va se passer, c'est que là, ils viennent de vivre leur premier grandeur nature. Fait que là, ça les a déjeunés. Ils se sont fait des amis qui, maintenant, aiment faire des grandeurs nature. Fait que là, par exemple, le domaine Mézeray, si jamais vous avez un boom de jeunes, vous pourrez penser à moi. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Ben, ces jeunes-là vont commencer à faire un petit peu plus de GN. Puis, il y en a peut-être qui vont se découvrir une passion, je sais pas moi, pour la sculpture ou la décoration.
Ouais, fabriquer des armes puis des costumes. J'ai déjà vu du monde qui ont découvert une passion pour fabriquer des costumes.
Exact.
Tu vois?
Ben, parce que si tu veux vraiment aller all-in dans ton personnage, ben là, il faut que tu lui fasses un costume. Puis si tu veux sauver de l'argent, ben, parce que ça coûte cher, là, avoir des costumes médiévaux, là. Si vous allez, je vais en profiter pour les plugger parce qu'ils sont fins, là, mais si vous allez à Dracolite à Montréal, qui est l'endroit où moi, je m'étais procuré mon stock de GN, c'est cher rapidement, là, un costume, là. Wow, ça peut monter dans les 400-500 $ là, très, très facilement. Fait qu'à partir du moment où tu le fais toi-même, ben, ah, peut-être que t'aimes vraiment ça, faire de la couture. Ben, OK, si j'aime ça, faire de la couture, ben, je pourrais commencer à en faire pour mes amis. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand tu deviens adulte? Ben, tu pourrais peut-être aller dans une école de couture. Fait que là, pis au final, c'est ça qui s'est passé avec moi dans mon cheminement, hein, parce que ben, j'ai trippé Donjons et Dragons, j'ai trippé sur la scénarisation, puis ben, j'en ai fait un métier. Là, fait que petit train va loin, comme on dit. Là.
Ah, c'est sûr, mais c'est drôle. Puis tu sais, je poussais son rôle à un autre niveau. C'est drôle, moi, quand je joue à Donjons et Dragons, moi, j'étais un barde, puis je chante mes chansons. Et... Tu peux chanter tes paroles puis tout. Là. Est-ce que c'est déjà arrivé des fois du monde qui ils arrivent là déguisés en magicien puis tout, puis mettons ils vont jouer un instrument. Hein?
Mais en fait déjà je vais en profiter pour briser deux stéréotypes qui existent par rapport au Donjon Dragon. La première c'est très rare les games de D&D où ce qu'on va se costumer. Les gens ont peut-être un peu de difficulté à dissocier le grandeur nature du jeu de rôle sur table parce que jeu de rôle sur table c'est comme moins d'investissement, j'ai envie de te dire, dans le sens où la majorité du temps, avec mes jeunes, on est habillés comme je suis habillé en ce moment. Fait que, tu sais, je porte une chemise puis un pantalon.
Ça se peut-tu que dans Stranger Things, il y en a juste un, mettons, qui a un costume?
Il me semble
que
c'est Will, oui.
Oui, c'est juste, il a son chapeau de magicien, mais le reste du monde, ils sont normaux. Là.
Exact,
ouais.
C'est ça. Puis, tu sais, lui, il est vraiment à fond dedans, là. Quand tu regardes la série, genre, même rendu à la saison 3, quand c'est quasiment la fin du monde, il continue de parler de l'époque où il aimait donc faire ça du Donjon Dragon avec eux autres puis que la gang s'est séparée, tu sais.
Ouais, ouais.
Fait que oui. Mais
normalement,
ça va être assez rare.
Ouais, c'est rare, oui, ça, mais...
Mais j'en fais des fois. Là, des fois, j'organise des activités spéciales qu'on avait fait. Une fois, avec une travailleuse de rue. Donc là, je vais quand même me permettre de le mentionner. Une travailleuse de rue, c'est quelqu'un qui travaille avec les gens qui sont en situation d'itinérance ou qui sont dans des difficultés plus problématiques. Là, on n'est pas en train de parler d'une travailleuse de l'autre type.
Non, je sais ce que c'est.
Puis... moi, des fois, j'en ai une, Marie-Soleil, qui vient dans ma compagnie, puis qui participe aux parties, parce que des fois, on a des jeunes qui ont peut-être des trucs plus difficiles qu'ils vivent, puis ça peut être le fun qu'ils aient. T'sais, moi, je m'y connais là-dedans, mais pendant que je suis en train d'animer la partie, je peux pas m'occuper de toutes les jeunes en simultané. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'elles vont aider le jeune en question avec ses difficultés ou ce genre de choses-là. Encore une fois, dans un climat qui est le fun pour eux autres parce que c'est pas toujours simple en fait grandir, juste la vie en général c'est pas toujours facile. Puis tu sais quand t'es là puis que t'as du fun puis que c'est un exutoire, ben t'as peut-être plus tendance à vouloir t'ouvrir puis à vouloir discuter.
Fait que c'est vraiment engagé dans le fond ton histoire là, c'est pas juste on dirait qu'il y a quasiment de la thérapie là dans ton
j'essaye de pas dire que je fais de la thérapie, parce que je peux...
Plus comme thérapeutique,
exact,
l'action,
c'est ça.
Qu'une thérapie en soi.
Parce que je peux pas remplacer un travailleur social, je peux pas remplacer un psychologue, c'est mais, tu sais, si je peux être une ressource qui permet de guider un peu plus vers ces ressources-là, c'est déjà une grosse victoire, comme, tu sais, le site web est en construction, mais moi, j'ai des partenariats, notamment, je veux créer des partenariats avec des maisons de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent même pas que ça existe, puis c'est une ressource qui est très importante, là, les maisons de jeunes, là. Fait que ça, j'ai débordé un peu de la question là, mais
c'est correct. Mais de toute façon, c'est
l'heure de la pause, même si la pause dure pas une heure.
Aïe, à bientôt là.
Aïe, à bientôt.
Ultime,
mais c'est pourquoi dans le fond, moi on m'appelle
le roi des jingles. King of jingles.
C'est moi, le roi des jingles. Fait que c'est ça, mais j'ai officiellement 41 jingles. C'est quand même beaucoup. Le plus, c'est qu'on est juste à notre saison 2. Là.
Déchaîné.
Fait que là, j'envoie la pause. Ensuite, de la petite musique. Puis on revient avec des conversations. Ah non, c'est bon.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de CHIZ 94.3 FM.
Nous sommes de retour à l'heure des histoires avec Louis-David Gingras et Jérémy. Bon, ben, bonjour, mon ami. Ben, c'est bonjour. Ça, c'était. Ah, tu vois, la petite musique qui joue en background. Alors, c'était le Hobbit. Ben, c'était Lord of the Ring.
Mais, la musique de la comté.
En fait, je l'ai noté, c'est qui fait ça, là, mais c'est Howard Shore.
Howard Shore,
puis c'est. En fait, celle-là, c'est la toune à compter, mais c'est le titre, c'est Concerning Hobbits. Fait que voilà, vous pourrez l'écouter. Ça, c'est, il y a même une compilation de une heure qui vient de commencer. Là.
Nice.
On pourrait faire la fin de l'épisode avec ça en fond.
Ça serait épique, ça serait malade.
Ben écoute, c'est ça, mais dans le fond, je l'ai déjà fait l'affaire de thématique là, tantôt. Là, j'ai dit, c'est parce qu'à l'émission, on est.
Thématique.
C'est parce que je passe tellement de temps à faire ces jingles-là qu'il faut bien que je les joue. Là,
ah ben oui, c'est clair. Il faut les rentabiliser.
Donc, j'ai mis ça. Ben, j'ai mis le Hobbit, Lord of the Rings, parce que dans le fond, quand on parle de grandeur nature, on parle de ça. Parce que ça aussi, je pense que c'est un film que quand il est sorti, ça, c'était plus grandeur nature que Donjon Dragon, là, mais ça l'a comme vraiment rendu ça, que les gens, ils voulaient, ah, moi, je veux être un elfe, puis je veux jouer... à la conquête du Mordor. Là,
ouais. c'est un classique. Là. En fait, Lord of the Rings, lorsque c'est sorti, ben, déjà, ça a prouvé plusieurs choses, hein, parce que c'est cultissime au cinéma. On pensait que faire du médiéval fantasy comme il faut, c'était pas possible, notamment parce que les hobbits, c'est des tout petites personnes. Là, même si, bon, le film, quand tu le réécoutes aujourd'hui, tu vois qu'il y a des moments où les hobbits, c'est des enfants de 6 ans. Là, mais majoritairement, ça c'était fou, là, c'était révolutionnaire pour le cinéma, parce que la manière dont ils avaient fait, puis ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'acteur de Gandalf, il a fini par péter une dépression sur ce plateau de tournage-là, c'était parce que la manière dont ils filmaient, pour que les hobbits aient l'air tout petits, il avait créé genre tout un enchaînement de trucs qui faisait que, en réalité, les acteurs qui jouaient les hobbits étaient extrêmement loin de la caméra, puis l'acteur de Gandalf, il était juste à côté, mais ils ont comme triché l'angle de vue
de perspective.
Pour qu'il ait l'air face à face, fait que vu qu'il était très très loin, il avait l'air très très petit, tout en étant face à face.
Wow. Puis ils jouent avec les ombres après.
Ouais, c'est ça. C'est incroyable comment ils ont réussi à faire ça. C'était un tour de force.
On parle ici des millions et des millions de dollars. Là.
Ah, ben oui, non, ça avait été une fortune.
Grosse production. Oui. Mais génial, Seigneur des Anneaux. Mais salutations à tous les gens de la comté.
Yes.
Qui nous écoutent en ce moment.
Nos homeboys.
Ah, les homies. Les hobbits. Fait que c'est ça. Ben là, il y a de quoi que je voulais diverger. Je pense que c'est. C'est l'heure des questions.
Let's go.
Avec les bruits d'eau, là. Ben, je dirais que ma première question, c'est comment que t'es arrivé à faire les jeux. Devenir maître de jeu, en fait.
Okay. Ouais, comment t'es arrivé? Déjà, je vais me permettre juste une parenthèse, juste parce que je la trouve drôle, mais Lord of the Rings, c'est beaucoup ce qu'est-ce qui a inspiré l'univers de Donjons et Dragons. Puis les Alphelins, la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, même si c'est des hobbits, les Alphelins, c'est à cause de problèmes de droits d'auteur qu'il y avait eu entre Wizard of the
parce
Coast.
Ils partagent beaucoup de races, là, les orques, les
elfes. Ouais, ben c'est lui qui a créé l'affaire, là, c'est lui qui a tout créé la patente.
C'est tout. Ok.
Si tu fais du médiéval fantasy, t'es dans le Seigneur des Anneaux direct.
C'est ça. Nous, quand on a découvert le Seigneur des Anneaux, on avait les jeux, là. On avait le guide des monstres chez nous, puis on avait tout ça. Là.
Fait que pour répondre à ta question, moi, j'ai commencé lorsque j'allais encore à l'école secondaire. Dans l'autre classe que je fréquentais lorsque j'avais commencé, il y avait l'animateur, donc Sébastien Pichet, qui d'ailleurs, Sébastien, si tu nous écoutes, il y a quelques semaines, pas si longtemps que ça, en fait, c'était son anniversaire, donc bonne fête encore.
Bonne fête.
Puis c'est lui qui m'avait initié à ça. J'avais commencé à en faire, puis je m'étais vraiment retrouvé là-dedans. Sauf que à l'extérieur de l'école, j'avais de la difficulté à trouver du monde qui voulait en faire avec moi, puis surtout moi-même, je savais pas comment créer une partie de jeu de rôle. Fait que, bon, j'en faisais quand il y en avait à l'école, mais sans plus. Puis la gang avec laquelle j'étais, on s'entendait pendant les games, mais sans plus. C'était pas des gens que je voyais à l'extérieur de l'école. Vient alors le Grandeur Nature dont je t'ai parlé tout à l'heure, où ce que là j'y vais. Puis là, pour moi, c'est comme une révélation. Là. Je trippe là-dessus, j'adore, je vais avec une gang d'amis, puis on a du fun au bout. En tout cas, ça je pense... Anecdote par rapport à ça, la technicienne en loi... En fait, la responsable de l'entreclasse avec laquelle j'ai organisé le Grandeur Nature cette année était la stagiaire du gars qui s'occupait de l'entreclasse lorsque moi, j'ai fait mon premier GN. Fait que, avec elle, donc, on est allé au Grandeur Nature. Puis moi, c'est ça, je m'en rappelle pas tout à fait, mais elle m'a dit que je la suivais à la trace. Fait qu'on était allé faire le Grandeur Nature ensemble. Puis j'avais trippé sur l'événement, la nature, l'extérieur. Puis j'avais été nommé roi comme pendant le Grandeur Nature. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement cool, j'adore. Je pense que c'était arrangé avec le gars des vues. Là, il voulait m'amener à comme m'extérioriser puis à développer un peu des skills de leadership. J'étais un jeune très, très, très introverti. Ouais, là, je parlais très, très peu. Puis lorsque je parlais, c'était pas pertinent.
Puis, c'est jour et nuit là, avec aujourd'hui où tu peux parler pendant une heure.
Ah, c'est clair. S'il y a du monde qui me recroise de mon secondaire, ils sont comme, t'es qui, toi? C'est que... D'où tu sors?
T'as évolué, tu vois.
Ah ouais, ben, cette transformation-là, je la dois au fait d'avoir voulu commencer à faire du cinéma.
Plus
mais aussi
charisme.
Beaucoup au jeu de rôle. Ah oui, 100 000%. J'ai décidé de tout investir, mes points dans le bard. fait que j'avais trippé. Sauf que là, c'est ça, je viens de faire du Grandeur Nature. Puis là, j'en veux plus, là, je veux en faire encore. Fait que je décide de voir s'il n'y a pas des Grandeurs Nature qu'il y a à Québec. Puis là, je me rends compte qu'il y en a au domaine Maiseret, donc les aventures médiévales fantastiques. J'en profite pour vous plugger, guys. Fait que j'étais allé. Puis c'était à toutes les semaines, pendant l'été, puis un petit peu pendant le printemps. je commence à en faire. Puis c'est là-bas que je rencontre ma gang d'amis. Donc, du monde qui allait dans une autre école secondaire, mais tu sais, qui était dans une commission scolaire différente de la mienne. Fait que là, on joue ensemble, on a du fun, puis on se rend compte qu'on aime bien ça, on aime bien ça, Donjons et Dragons, toutes nous autres. Fait que la personne en question m'invite, puis je m'en vais chez lui, on fait des parties. Fait que je finis par comme m'intégrer à une gang de jeux de rôle qui existe déjà. Fait qu'on fait ça pendant quelques années. Puis à un moment donné, ben, notre maître de jeu, donc qui était vraiment dévoué là-dedans, ben, il finit par... On finit par le perdre un peu de vue, là, dans le sens où il commence à être plus dans ses études, il commence à faire plus autre chose. On arrive à peu près au cégep à ce moment-là, ou du moins on commence à se préparer pour. Puis ça fait que notre gang d'amis est comme pas en train de se dissoudre, mais on va comme perdre notre raison de se rencontrer parce que la grande majorité d'entre nous, on a comme arrêté de faire du grandeur nature dans le processus. Là, on est à fond dans nos études, on commence à réfléchir à notre carrière. Là, moi, je me dis, je peux pas perdre tout ça. Tu sais, c'est tellement une gang le fun, on s'amuse tellement. Fait que puis sauf qu'il y a personne qui est comme game d'être maître de jeu temps plein. Puis tu sais, il y a comme un stéréotype, un archétype en fait dans le monde du jeu de rôle qui s'appelle le Forever DM, que à partir du moment où tu commences à en faire, tu peux plus redevenir joueur.
Ah, t'es toujours ouais.
Fait que là moi je suis pas au courant de cette malédiction là, mais là je me dis hey, ben j'aimerais ça peut-être en organiser une game. Fait que je commence à en faire. J'en fais pendant à peu près 5 ans. Fait que je fais ça vraiment avec mes amis une fois aux semaines, puis ensuite une fois aux 2 semaines, puis ensuite une fois par mois, parce que ben, la vie prend son cours, puis ben, lorsque tu es en train d'essayer de te créer une carrière, lorsque tu déménages de chez tes parents, lorsque ben, tu finis par avoir moins de temps pour ça, puis c'est normal. Ouais. Fait qu'on en fait de moins en moins, mais c'est comme ça que je commence à devenir maître de jeu. Puis le truc, c'est que moi, je veux continuer d'en faire avec ma gang, puis je veux continuer. Fait que j'essaie de réfléchir à des solutions. Puis moi, je suis toujours quelqu'un qui a voulu transformer ses passions en métier ou, tu sais, trouver une manière, pas nécessairement... Je fais pas ça pour l'argent, mais si je me disais tout le temps, si je suis capable d'en vivre, moi, ça me suffit.
Mais tu peux en faire plus, c'est ça l'histoire, c'est que t'es engagé à 100% là-dedans. Mm-hmm. Et en plus, tu vis de ça, fait que t'as pas besoin de t'inquiéter de...
Ben, exact. Puis surtout, une chose que je me permets de mentionner pour nos auditeurs, c'est... la compétition devient quasiment injuste à partir du moment où t'es rémunéré, parce que moi, je me lève le matin, je pense à faire des games de Donjons Dragons, je me couche le soir, je pense à faire ça. Comment est-ce que je fais pour innover? Comment est-ce que je fais pour intéresser les jeunes? Mmh. Fait qu'au bout d'un certain temps, à partir du moment où t'es rémunéré, quand t'es rémunéré, ben, la qualité de ce que tu fais devient tellement incroyable, mmh, parce que lorsque t'es quelqu'un qui a une carrière, qui veut commencer à fonder une famille, puis qu'au travers de tout ça, faut que tu fasses des games avec tes amis, ben la qualité, forcément, elle sera pas autant présente parce que tu peux pas t'investir autant, tandis que là, ben...
C'est pas le même enjeu non plus, là, parce que là, on parle ici des gens qui payent. Là,
c'est ça, exact.
Pour ça, fait que là, toi, tu te dois d'arriver là avec de quoi qu'il y a de l'allure.
Un produit fini, ben exact, quelque chose qui fait du sens. Tu sais, une expérience grandie, c'est la raison pour laquelle j'ai de la musique, c'est la raison pour laquelle je développe beaucoup mon univers, c'est la raison pour laquelle, lorsque je fais mes games, je vais... Tu sais, c'est pour ça que j'ai commencé à lire des livres de psychologie, en fait, notamment. Comment est-ce que je fais pour garder mes joueurs motivés, comment est-ce que je fais pour m'assurer qu'ils trippent, puis qu'est-ce que je dois aller chercher pour ça. Fait que, au travers de tout ça, je commence à m'intéresser plus à ça, puis je fais mes trucs de cinéma en simultané. Puis c'est un petit peu plus tard que je me rends compte que les deux peuvent être liés ensemble. Fait que je recommence à organiser des games avec mes amis, sauf que là, à ce moment-là, moi, je me dis, hey, Là, je veux faire une émission de jeu de rôle. Moi, j'aimerais ça faire ça. Mais là, il y a Critical Role qui existe déjà à ce moment-là. Puis tout le monde se lance dans se faire une émission de jeu de rôle. Tu sais, ça devient comme un peu la mode, les podcasts.
Une émission
ça.
De radio, là?
Non, une émission, tu sais, comme Critical Role, comment qui fonctionne sur
télé,
Twitch.
Là.
Ouais, c'est
ça. Ok, stream.
Ouais, fait que je m'étais dit, ok, est-ce qu'on peut faire ça? Là, je me rends compte que c'est pas nécessairement une bonne idée de se lancer dans un marché comme ça. Je suis très entrepreneur comme personne, pas de surprise ici. Mm-hmm. Fait que je me dis, OK, comment est-ce que je fais pour transformer ça? Puis je décide de laisser ça comme en pause pendant que je fais mes trucs de cinéma en simultané. Puis c'est à ce moment-là que je me dis, ben en fait, c'est pas réellement en pause parce que pendant que je fais mes trucs de réalisateur, ben moi, je suis en train de découvrir des gens qui savent faire de la post-prod, je suis en train de découvrir des gens qui savent faire de la sonorisation. Fait que là, je me dis, OK, on va se lancer là-dedans. Puis finalement, je laisse comme ça de côté à cause que le marché est déjà saturé de gens qui veulent faire des émissions de jeux de rôle, style Critical Role. Puis c'est à ce moment-là que là, je commence à me lancer plus dans le jeu de rôle dans les écoles, parce que ça, c'est quelque chose qui manquait beaucoup. Mmh. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé.
Ça mérite un wow, là. Wow! Fait que c'est ça, mais dans le fond... Là, on pourrait parler de tes ateliers, parce que là, oui. Tu parlais là, qu'il y avait beaucoup de... Il y a beaucoup de matériel, là, tu vois, j'ai noté plusieurs affaires, mais dans tes nouveaux ateliers, là, c'est quand même rendu big. Là. On parle ici, de... là, tu vois, il va y avoir des cours de latin, il y a quelqu'un qui va venir vous parler de la Grèce antique. Après ça, il y a une actrice, Karine Bisson, qui va être là. C'est quand même nice, ça va donner des cours. Mm-hmm. Là, j'ai vu qu'il allait même avoir un pianiste.
Ouais.
Avec grosse affaire.
Le truc avec le jeu de rôle, puis ça va avec la citation que tu as donnée tout à l'heure, c'est que tu peux tellement tout faire avec ça. Puis c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'est probablement la carrière que je vais vouloir faire pour le restant de ma vie. Parce que c'est comme pour le cinéma. C'est-à-dire que dans le cinéma, si tu veux focusser sur la musique, tu peux. Si tu veux focusser sur le bruitage, tu peux. Fait que. Ce qui est le fun avec ça, c'est que pour améliorer l'expérience de jeu, tu peux tout faire. Fait que moi, ce que j'avais déjà fait dans une de mes games, j'avais fait du doublage. Fait que moi puis une de mes amies, on avait doublé les voix des personnages. Puis pendant la game, moi je narrais. Puis j'avais, tu sais, je connais un peu mes joueurs. Fait que j'avais commencé à préparer qu'est-ce que les joueurs allaient répondre. Puis j'avais mis genre plein de textes audio dans lequel elle, qui a une voix différente de la mienne, alors répondait. Fait que j'avais rencontré comme la déesse de la lune. Puis quand elle leur parlait, moi, ben mon amie Mélissa, en fait, j'avais fait enregistrer des voix, fait qu'il se faisait répondre à travers mon speaker par un personnage qui était pas joué par moi. Ça, fait que moi, j'interagissais avec elle. Il y a tellement de créativité que tu peux faire là-dedans. Fait que j'avais aussi créé des cartes de l'univers. Fait que tu sais, j'avais vraiment une carte avec des distances, toutes ces choses-là.
Tu peux les dessiner. Tout le monde peut dessiner des cartes de jeu incroyables.
Ah, ben oui, non, c'est fou. Fait que, puis tu sais, tu peux créer tes propres figurines. Fait que, au bout d'un moment, comme je l'ai mentionné, moi, ce que je veux, c'est aussi les amener à se développer des capacités connexes qui vont leur servir si un jour ils veulent aller sur le marché du travail ou juste s'ils veulent améliorer leur expérience de jeu. Fait que je réfléchis à ça. Puis je me dis, comment est-ce qu'on fait ça? Fait qu'il y a un OSBL qui s'appelle la Fondation Humanitas que j'ai contacté au travers d'amis qui, eux, ils sont spécialisés. Ils veulent amener les gens à découvrir c'est quoi la culture grecque et le latin. C'est vraiment, vraiment pertinent avec le système que je veux mettre en place dans le sens où très souvent, quand tu fais parler tes démons, c'est le latin qu'ils vont aller parler. Ou quand tu veux que tes choses sonnent un peu magiques, là, quand tu crées des sortilèges, ben, c'est du latin. Fait que quand tu veux créer un système de jeu de rôle, avoir des bases de latin, ça peut être super pertinent. Fait qu'avec eux, on s'est lancé dans la création d'ateliers d'été qui vont avoir lieu donc en juillet, là, des périodes de 2 semaines. Et en simultané, je me suis dit, OK, c'est quoi d'autre que tu peux aller chercher qui serait pertinent au jeu de rôle? Fait que là, moi, je suis anciennement dans le milieu du cinéma. Je me dis, OK, je vais contacter une actrice que je connais qui est vraiment bonne pour aller dans ses émotions. Fait que, tu sais, tout à l'heure, je faisais des voix, mais je me dis, OK, elle va leur montrer comment est-ce qu'on fait des voix, comment est-ce qu'on va chercher dans ses émotions. Fait qu'on va comme aller améliorer l'expérience de jeu en faisant ça, parce que tout le monde peut jouer à du jeu de rôle avec un papier, un crayon. Mais là, jouer à du jeu de rôle, quand tu changes la langue quand tes démons parlent, puis ça peut aussi servir aux énigmes lorsque tu vas en créer, parce qu'on peut mettre des énigmes
aussi
là-dedans.
C'est un maître de jeu, là.
C'est ça. Quand les joueurs aussi peuvent participer à l'émotion du personnage, fait que là, OK, fait que là, on a une actrice. C'est intéressant, on va montrer aux jeunes comment ça marche, puis en simultané, ils vont découvrir c'est quoi un peu le milieu du cinéma. Fait que là, on a des gens qui découvrent le domaine de la langue grâce aux ateliers d'été. Fait que là, ben, peut-être qu'ils vont décider de devenir linguistes parce que Tolkien, là, qui a fait Le Seigneur des Anneaux, c'est pas juste un auteur, hein, c'est un linguiste à la base.
Il a un vocabulaire, il y a un dictionnaire.
Ouais, ben son métier à la base, c'était linguiste, là. Puis même chose, tous les grands livres qui ont été écrits, la personne qui l'a écrit, c'était pas juste un auteur, là, c'était quelqu'un qui avait quelque chose à dire, c'était quelqu'un qui avait une expertise. 1984, George Orwell, on parle de quelqu'un là qui avait compris des choses que personne d'autre avait compris à son époque. Fait que là, je me dis, OK, comment est-ce qu'on améliore encore? Comment est-ce qu'on va chercher une couche de plus? Puis c'est à ce moment-là que je me dis, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je mets de la musique à travers mes speakers, fait que je vais mettre comme du classique ou des choses comme ça. Moi, dans la vie, j'aime bien danser. Puis je rencontre un pianiste. Puis je me dis, « Hey, t'intéresserais-tu, toi, de faire du piano d'improvisation pour des games de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle en général? »
C'est quand même frais. Si on m'avait demandé ça, j'aurais sûrement dit oui.
Ouais, exact. C'est fou, genre. Fait que les ateliers d'été, en fait, moi, ce que je veux faire avec ça, ils vont se dérouler en juillet. C'est des périodes de 2 semaines de 16h à 20h. C'est 370$ plus taxes, donc c'est à peu près 424$ pour 2 semaines, ce qui est à peu près 10$ de l'heure. Donc, par rapport au produit fini, par rapport à ce que les jeunes vont obtenir, ça vaut très, 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 très largement la peine. C'est un 2 semaines pendant lequel je vais leur montrer comment faire pour être maître de jeu professionnel. Comment est-ce que tu fais pour améliorer l'expérience? Fait qu'on va faire des games de donjons de jeux de rôle, en fait.
C'est ce qu'ils apprennent à devenir un maître de jeu.
Exact. Fait qu'on va faire des games de jeux de rôle pour leur donner des exemples. Fait que moi, je vais donner des ateliers de scénarisation. Fait que c'est quoi la diégèse, c'est quoi la suspension d'incrédulité, notamment, si je peux me permettre, dans le médiéval fantasy, pas le fantastique, le fantasy, une suspension d'incrédulité, c'est beaucoup plus facile à ne pas briser. Donc, grossièrement, la suspension d'incrédulité, c'est à quel point la personne adhère à ton univers. Par exemple, si t'es dans Game of Thrones, puis tu vois un avion de chasse ou un café Starbucks. Wow.
C'est une référence.
Ouais, dans la dernière saison, à un moment donné, il y a un café Starbucks qui a passé sous le radar. Fait qu'on voit genre Daenerys avec un café. Fait que si tu vois ça, ben tu vas décrocher, on s'entend. Oh, puis oui. Même chose, si t'es dans un univers qui est réaliste, puis que les personnages...
Ça brise le quatrième mur, mais de façon comme... C'est-tu ça, le quatrième mur, ouais. Mais de façon malsaine?
Déplaisante, c'est ça, on appelle ça briser la suspension d'incrédulité.
Non voulu, oui.
Fait que dans le médiéval fantasy, ce qui est plus facile quand tu veux faire du jeu de rôle puis que t'es moins expérimenté, ben ce qui est le fun, c'est que si à un moment donné, t'as ce qu'on appelle en anglais un plot hole, donc une discontinuité dans l'histoire, t'as fait une erreur. Il y a un personnage qui est rendu à un endroit X, puis il est pas supposé être là. C'est du médiéval fantasy, il s'est téléporté, c'est tout.
Tandis que tu peux justifier.
C'est ça, exact. Ben il y a un cristal de téléportation. Fait c'est comme ça
capable,
que c'est
rendu. Fait que t'es capable, dans le fond, de justifier des choses qui étaient des erreurs à la
exact.
Base.
Exact.
Ah, c'est bien.
On s'entend, moi, j'ai plus besoin vraiment de recourir à ça. Sauf,
parce que t'es organisé.
C'est ça, sauf cas ouais. extrême. Mais c'est pour ça qu'on a différents genres scénaristiques. Fait que le médiéval fantasy, ça pardonne beaucoup plus. Parce que pourquoi est-ce que le personnage arrive à faire ça? Il s'est fait posséder par un démon. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à créer un bateau alors qu'il n'a aucune connaissance? Ben c'est de la magie. Tandis que si tu fais un univers qui est beaucoup plus réaliste, ben comment est-ce que le personnage qui n'était jamais sorti de chez lui a fait pour créer un bateau? Oups, bonne chance pour justifier ça. Fait que je vais notamment parler des genres scénaristiques, de comment ça fonctionne. La Karine, donc, elle va leur donner des ateliers d'acting. Donc, on va passer une journée complète à leur montrer comment est-ce qu'on fait de l'acting. Puis ensuite, on va faire une game de jeu de rôle dans laquelle il va falloir qu'ils incarnent un peu plus leur personnage.
C'est quand même un challenge.
Ça va être un challenge. C'est pour ça que c'est des ateliers, mais tu sais, c'est une belle expérience. C'est quelque chose qui est le fun. Puis vu que ça va être plein de tripeux ensemble...
Ben, ça va passer.
Ça va passer. Ouais. Puis à la fin de ces deux semaines-là, ceux qui vont avoir organisé leur one-shot de jeu de rôle, donc ça va être un 2 heures qu'ils doivent créer, mais tu sais, un vrai 2 heures. Là. C'est-à-dire, ils doivent me dire quelle musique qu'ils aimeraient qu'ils soient joués. Ils doivent me dire c'est quoi les personnages, c'est quoi l'univers dans lequel on est, qu'est-ce que les joueurs, qu'est-ce qu'ils s'attendent que les joueurs vont faire. Fait que tu sais, vraiment, comme tout le cheminement que moi je fais lorsque j'organise, ben, une fois qu'ils vont voir ça, en récompense, pendant qu'ils vont faire la partie de jeu, il y a le pianiste que s'il leur dit joue-moi tel type de musique ou joue-moi une musique triste ou joue... ben, vu que c'est un pianiste d'improvisation, il va le faire.
Ah, c'est bien.
Fait que ils vont avoir une game de jeu dans laquelle la musique va être faite en live. Ça va se dérouler au Centre du Rocher, donc la salle 314. Si jamais il y a des auditeurs que ça intéresse, les ateliers, c'est pour les 11 à 18 ans. Ouais. Je peux autoriser des gens qui sont comme récents 19 parce que ça serait plate de manquer une si belle activité pour si peu. Puis la manière dont je vais faire ça, c'est que les 11 à 15 ans vont avoir un petit peu plus de jeux de rôle que les 15 à 18, tout ce que là, eux, ils peuvent se prendre peut-être un petit peu plus de matière pour développer leurs compétences. J'ai mentionné le prix. Fait que ça va être des ateliers qui vont être incroyables. J'ai déjà quand même pas mal d'inscriptions. C'est fou à quel point ça fonctionne actuellement. Là. Puis c'est en association avec la Fondation Humanitas, comme je l'ai mentionné, ils sont super. Là. C'est comme... J'ai parlé avec leur président, puis le gars, c'est une tête. Là. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement intelligent. Là. Il parle des grandes sociétés, puis des philosophes grecs, puis tout ça. Là,
c'est bien.
Il y a des connaissances qui sont fortes, puis c'est lui ou quelqu'un qui fait partie de la fondation donc qui va venir. Fait que la thématique, parce qu'il faut qu'on soit thématique, si tu veux nous lancer une jingle, c'est l'opportunité.
Oui, je te lance,
yes!
Thématique,
thématique, thématique.
Faut que tu l'en dises pendant 8 secondes. Par contre, c'est une...
Fait que pour être full thématique avec le concept, les games vont se dérouler dans la Grèce antique. Donc, on va vraiment aller chercher des trucs qui représentent la période historique. Fait que peut-être qu'on va aussi développer des passions pour l'histoire, qui sait. Fait qu'il va falloir qu'ils créent ces choses-là puis qu'ils imbriquent de la magie au travers ou pas. Donc ça va être vraiment au choix du jeune par rapport à l'univers qu'il va créer. Fait que moi, j'ai très, très hâte. Là. C'est la plus grosse activité qu'on organise depuis le Grandeur Nature. Puis ça va juste être fantastique. Là.
Mais tu vois, ça va être...
Fantastique!
Non, mais moi, je dirais que ça serait...
Fantastique!
T'as même plusieurs versions de tes jingles.
Moi, j'en ai même un autre.
Let's go.
Fantastique.
Là, j'en ai trois fantastiques. All right. C'est parce que c'est un de mes vocabulaires que j'utilise le plus. Là. Mais non, c'est mon seul jingle que j'en double. Mais c'est ça, mais là, tu vois, et, hey, ça passe vite. Là. C'est déjà... Tu vois, ça passe vraiment vite.
Une heure et demie, c'est très rapide.
Parce que toi, c'est ça, dans le fond, toi, tu vois pas. Parce que c'est marqué. Normalement, on a l'heure en haut, mais c'est marqué 502 Bad Gateway. Je dis ça aux gens de l'autre côté. Mais c'est ça, normalement, on a l'heure. Fait que toi, tu vois pas l'heure. Mais oui, il est déjà 11h22. Et ben, c'est maintenant le temps des remerciements. Mais tu vois, il y a tellement de choses que je voulais parler. T'sais, on n'a même pas parlé des inspirations. Puis de la forme. Mais peut-être. Si on a le temps, en une minute, là, me dire c'est quoi tes inspirations, comment tu t'inspires pour créer des quand tu crées?
La première aventure que j'ai écrite, je me suis beaucoup inspiré de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, donc de Ward Stone Chronicles, qui est une histoire de médiéval fantasy, mais de la basse fantasy, donc où ce que la magie n'est pas omniprésente, donc qui a vraiment un système de règles très, très, très clair, qui avait beaucoup marqué mon enfance. C'est de l'histoire un peu d'horreur, un peu gothique, dans laquelle Tom, donc, apprend qu'il est le septième... Ben, il l'apprend. C'est le septième fils d'un septième fils, donc il est éligible à devenir l'épouvanteur, et un épouvanteur, c'est quelqu'un qui va donc combattre le mal, repousser les sorcières dans la comté. Puis la raison pour laquelle je m'étais beaucoup inspiré de ça, c'est parce que je voulais encourager les jeunes justement à lire ces romans jeunesse-là qui sont, ma foi, formidables. Forcément, j'ai des inspirations qui viennent de partout. Re:Zero, donc dans les animes, qui est juste incroyable. C'est ce qu'on appelle le genre du isekai. Donc c'est un héros qui se retrouve dans un autre monde, mais vient comme déconstruire le isekai, parce qu'en ce moment, c'est vraiment une grosse mode, puis c'est pas tout le monde qui le fait comme du monde. Fait que lui, il a décidé de créer cette histoire-là, puis déconstruire les codes qui allaient avec. Sinon, dans le cinéma, Old Boy, mais là, ça, je le mets un petit peu moins dans mes games Dieu, avec les jeunes, bon, parce que c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Ouais.
Oh mon Dieu.
C'est incroyable à quel point c'est bon. C'est un peu violent aussi.
C'est
là.
Très violent, mais c'est bien réalisé. Les caméras, les plans de caméra, il y en a un en particulier, le plan de caméra où il combat plein de gens.
Ouais, ça, c'est la scène ultime. Là. Je la réécoute des fois juste parce que c'est trop fou.
C'est tellement bien fait. Là. Ah,
la musique, l'acting, tout.
Génial.
Fait que, puis sinon, dans la littérature, en dehors de Wardstone Chronicles, j'aime bien. Tiens, on va y aller dans des web novels. Mother of Learning, donc la mère de tous les apprentissages, c'est à propos d'un magicien qui est coincé dans une boucle temporelle puis qui en profite pour apprendre et étudier la magie. Fait que c'est comme un bon prétexte pour que l'histoire te fasse comprendre comment le système de magie fonctionne.
Ah ouais.
Puis j'avais trouvé ça pertinent qu'ils s'en servent de cette façon-là, parce que très souvent, quand tu fais des loops temporelles, tu te concentres plus sur l'intrigue, tandis que lui, il se concentre plus sur développer l'univers. Fait qu'à chaque nouvelle boucle, tu apprends un nouvel aspect de l'univers.
Ah, c'est intéressant, mais c'est un peu comme le jour de la marmotte, vu que le gars, il va devenir meilleur.
Exact.
Il s'améliore à chaque jour. Hein.
Exact, c'est le même concept utilisé différemment. Fait que ça, je te dirais que c'est mes inspirations principales. Je dois en avoir d'autres, mais c'est celles que j'ai personnellement dénotées puis que j'essaye de mettre à sous différents aspects. Là, je mets pas la violence de Old Boy. Là, j'essaie plus de. j'ai pas la prétention non plus de dire que je fais ce genre de chef-d'œuvre-là, parce que ça, c'est vraiment un culte dans le cinéma.
Oui, oui.
Mais j'essaye de mettre la construction scénaristique. Qu'est-ce qui a fait qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a fait qui a marché? Dans mon temps libre, j'aime vraiment beaucoup analyser comment les histoires sont faites.
Ah, mais merci. Mais merci full hein, d'être venu, Jérémy.
Ben, c'était un plaisir.
C'est vraiment un plaisir. À noter tout le monde que Jérémy, il m'a écrit. Parce que là, dans le fond, nous, on a une page Facebook lors des histoires. Puis j'invite les gens à nous écrire. On a même une adresse courriel. Tu sais, ben là, j'imagine l'adresse est marquée sur notre site. Mais,
oui.
Mais écrivez-nous. Lors des histoires, parce que c'est ça, Jérémy m'a écrit, il m'a proposé son projet, il a dit, ouais, moi j'ai ça, je pense que ça serait parfait. Puis j'ai dit, let's go, all in. Tu vois, fait que moi, je vous encourage, là, tu sais, parce qu'on parlait de ça hors honte, parce que toi, t'avais déjà une émission.
Ouais, The Q&A Notes.
Puis tu disais que le monde de Chiz, les auditeurs de Chiz sont silencieux. Mais là, je dis, auditeurs de Chiz, auditrices, écrivez-nous, dites-nous salut, n'importe quoi, mais écrivez-nous.
Donnez-nous du feedback.
Parce que moi, ça fait quand même 33 épisodes que je fais, puis tu sais, j'aime ça quand les gens m'écrivent, même si c'est un petit quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que je remercie tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Et là, c'est ça, moi, je finis tout le temps avec une chanson que j'ai composée.
Wow.
Parce que c'est comme, c'est ça, j'aime ça créer la pastiche sonore de l'émission. Donc là, j'essaie tout le temps d'être thématique. Fait que
thématique.
Là, je pense que là, c'est joué, je pense. Fait que faudrait que j'en aie un autre de thématique.
Ouais.
Saison 3, tout le monde, je vais en avoir d'autres. Fait que ça s'appelle Renaissance au champ de bataille.
Oh.
Parce que là, on parlait... Mais tu sais, la musique, c'est clairement pas dans le même style que de ce qu'on parlait, mais le thème, le titre, là... Puis c'est Bloody Groove. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je vais vous souhaiter...
Bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.
Avec le chou. Fait que voilà. Donc, je vais vous... C'est ça. Tout est dit, hein?
Ouais, tout est dit. On se laisse sur une magnifique mélodie. Mais,
et... Moi, je dirais, en fait, allez regarder la page de Gloire et d'Aventure. Mm-hmm. Allez la liker, puis allez inscrire vos enfants si jamais vous êtes des parents... qui écoute l'émission,
Puis aussi, je le mentionne parce que je sais que pour certaines familles, ça peut être des ateliers qui sont un petit peu plus dispendieux. Il y a manière de s'arranger, il y a manière de faire des versements, il y a plus d'une façon. Moi, mon objectif, c'est que les jeunes puissent avoir des belles expériences. L'argent, c'est secondaire après. Là. C'est sûr que... C'est ça. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde vive des belles expériences.
Je respecte ton métier. Fait que je te souhaite vraiment une belle journée à tout le monde, puis on vous laisse sur Renaissance au champ de bataille.
C'était un plaisir.
Plaisir partagé.